Chapitre 35 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gwan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 35. La nuit, tous les chats sont gris. Ce soir, attendu si impatiemment par Porthos et par D'Artagnan, arriva enfin. D'Artagnan, comme d'habitude, se présenta vers les 9 heures chez Milady. Il la trouva d'une humeur charmante. Jamais elle ne l'avait si bien reçue. Notre Gascon vit du premier coup d'œil que son billet avait été remis, et ce billet faisait son effet. Ketty entra pour apporter des sorbets. Sa maîtresse lui fit une mine charmante, lui sourit de son plus gracieux sourire. Mais hélas, la pauvre fille était si triste qu'elle ne s'aperçut même pas de la bienveillance de Milady. D'Artagnan regardait l'une après l'autre ces deux femmes, et il était forcé d'avouer, à part lui, que la nature s'était trompée en les formant. À la grande dame, elle avait donné une âme vénale et vile. À la soubrette, elle avait donné le cœur d'une duchesse. À 10 heures, Milady commença à paraître inquiète. D'Artagnan comprit ce que cela voulait dire. Elle regardait la pendule, se levait, se rasseyait, souriait à D'Artagnan d'un air qui voulait dire « Vous êtes fort aimable, sans doute, mais vous seriez charmant si vous partiez. » D'Artagnan se leva, prit son chapeau. Milady lui donna sa main à baiser. Le jeune homme sentit qu'elle la lui serrait et comprit que c'était par un sentiment, non pas de coquetterie, mais de reconnaissance à cause de son départ. « Elle l'aime diablement, » murmura-t-il. Puis il sortit. Cette fois, Ketty ne l'attendait aucunement, ni dans l'antichambre, ni dans le corridor, ni sous la grande porte. Il fallut que D'Artagnan trouvât tout seul l'escalier et la petite chambre. Ketty était assise la tête cachée dans ses mains et pleurait. Elle entendit entrer D'Artagnan, mais elle ne releva point la tête. Le jeune homme alla à elle et lui prit les mains. Alors elle éclata en sanglots. Comme l'avait présumé D'Artagnan, Milady, en recevant la lettre, avait dans le délire de sa joie tout dit à sa suivante. Puis, en récompense de la manière dont cette fois elle avait fait la commission, elle lui avait donné une bourse. Ketty, en rentrant chez elle, avait jeté la bourse dans un coin où elle était restée toute ouverte, dégorgeant 3 ou 4 pièces d'or sur le tapis. La pauvre fille, aux caresses de D'Artagnan, releva la tête. D'Artagnan lui-même fut effrayé du bouleversement de son visage. Elle joignit les mains d'un air suppliant, mais sans oser dire une parole. Si peu sensible que fût le cœur de D'Artagnan, il se sentit attendri de cette douleur muette. Mais il tenait trop à ses projets, et surtout à celui-ci, pour rien changer au programme qu'il avait fait d'avance. Il ne laissa donc à Ketty aucun espoir de fléchir. Seulement, il lui présenta son action comme une simple vengeance. Cette vengeance, au reste, devenait d'autant plus facile que Milady, sans doute pour cacher sa rougeur à son amant, avait recommandé à Ketty d'éteindre toutes les lumières dans l'appartement et même dans sa chambre, à elle. Avant le jour, M. de Wardes devait sortir, toujours dans l'obscurité. Au bout d'un instant, on entendit Milady qui rentrait dans sa chambre. D'Artagnan s'élança aussitôt dans son armoire. À peine y était-il blotti que la sonnette se fit entendre. Ketty entra chez sa maîtresse et ne laissa point la porte ouverte. Mais la cloison était si mince que l'on entendait à peu près tout ce qui se disait entre les deux hommes. Milady semblait ivre de joie. Elle se faisait répéter par Ketty les moindres détails de la prétendue entrevue de la soubrette avec M. de Wardes. Comment il avait reçu sa lettre, comment il avait répondu, quelle était l'expression de son visage, s'il paraissait bien amoureux. Et à toutes ces questions, la pauvre Ketty, forcée de faire bonne contenance, répondait d'une voix étouffée dont sa maîtresse ne remarquait même pas l'accent douloureux, tant le bonheur est égoïste. Enfin, comme l'heure de son entretien avec le comte approchait, Milady fit en effet tout éteindre chez elle. et ordonna à Ketty de rentrer dans sa chambre et d'introduire De Wardes aussitôt qu'il se présenterait. L'attente de Ketty ne fut pas longue. À peine D'Artagnan eut-il vu par le trou de la serrure de son armoire que tout l'appartement était dans l'obscurité, qu'il s'élança de sa cachette au moment même où Ketty refermait la porte de communication. « Qu'est-ce que ce bruit ? » demanda Milady. « C'est moi, » dit D'Artagnan à demi-voix. « Moi, le comte de Wardes. »« Oh, mon Dieu ! Mon Dieu !» murmura Ketty. « Il n'a même pas pu attendre l'heure qu'il avait fixée lui-même. »« Eh bien, » dit Milady d'une voix tremblante, « pourquoi n'entre-t-il pas ?»« Comte, comte, » ajouta-t-elle, « vous savez bien que je vous attends. » À cet appel, D'Artagnan éloigna doucement Ketty et s'élança dans la chambre de Milady. Si la rage et la douleur doivent torturer une âme, c'est celle de l'amant qui reçoit sous un nom qui n'est pas le sien des protestations d'amour qui s'adressent à son heureux rival. D'Artagnan était dans une situation douloureuse qu'il n'avait pas prévue. La jalousie le mordait au cœur, et il souffrait presque autant que la pauvre Ketty, qui pleurait en ce même moment dans la chambre voisine. « Oui, comte, » disait Milady, de sa plus douce voix, en lui serrant tendrement la main dans les siennes. « Oui, je suis heureuse de l'amour que vos regards et vos paroles m'ont exprimé chaque fois que nous nous sommes rencontrés. Moi aussi, je vous aime. Oh, demain, demain, je veux quelques gages de vous qui me prouvent que vous pensez à moi, et comme vous pourriez m'oublier. Tenez. » Et elle passa une bague de son doigt à celui de D'Artagnan. D'Artagnan se rappela avoir vu cette bague à la main de Milady. C'était un magnifique saphir entouré de brillants. Le premier mouvement de D'Artagnan fut de le lui rendre, mais Milady ajoutait « Non, non, gardez cette bague pour l'amour de moi. Vous me rendrez d'ailleurs, en l'acceptant, ajouta-t-elle d'une voix émue, un service bien plus grand que vous ne sauriez l'imaginer. Cette femme est pleine de mystères, murmura en lui-même D'Artagnan. En ce moment, il se sentit prêt à tout révéler. Il ouvrit la bouche pour dire à Milady qui il était et dans quel but de vengeance il était venu. Mais elle ajouta « Pauvre ange, que ce monstre de Gascon a failli tuer !» Le monstre, c'était lui. « Oh !» continua Milady, « est-ce que vos blessures vous font encore souffrir ?»« Oui, beaucoup, » dit D'Artagnan, qui ne savait trop que répondre. « Soyez tranquille, » murmura Milady, « je vous vengerai, moi, et cruellement. » « Peste, » se dit D'Artagnan, « le moment des confidences n'est pas encore venu. » Il fallut quelque temps à D'Artagnan pour se remettre de ce petit dialogue. Mais toutes les idées de vengeance qu'il avait apportées s'étaient complètement évanouies. Cette femme exerçait sur lui une incroyable puissance. Il la haïssait et l'adorait à la fois. Il n'avait jamais cru que deux sentiments si contraires pussent habiter dans le même cœur, et en se réunissant, former un amour étrange et en quelque sorte diabolique. Cependant, une heure venait de sonner. Il fallut se séparer. D'Artagnan, au moment de quitter Milady, ne sentit plus qu'un vif regret de s'éloigner, et dans l'adieu passionné qu'ils s'adressèrent réciproquement, une nouvelle entrevue fut convenue pour la semaine suivante. La pauvre Ketty espérait pouvoir adresser quelques mots à D'Artagnan lorsqu'il passerait dans sa chambre, mais Milady le reconduisit elle-même dans l'obscurité et ne le quitta que sur l'escalier. Le lendemain au matin, D'Artagnan courut chez Athos. Il était engagé dans une si singulière aventure qu'il voulait lui demander conseil. Il lui raconta tout. Athos fronça plusieurs fois le sourcil. « Votre Milady, lui dit-il, me paraît une créature infâme. Mais vous n'en avez pas moins eu tort de la tromper. Vous voilà d'une façon ou d'une autre une ennemie terrible sur les bras. » Et tout en lui parlant, Athos regardait avec attention le saphir entouré de diamants qui avait pris au doigt de D'Artagnan la place de la bague de la reine, soigneusement remise dans un écrin. « Vous regardez cette bague ? » dit le Gascon, tout glorieux d'étaler au regard de ses amis un si riche présent. « Oui, » dit Athos, « elle me rappelle un bijou de famille. »« Elle est belle, n'est-ce pas ?» dit D'Artagnan. « Magnifique, » répondit Athos. « Je ne croyais pas qu'il existât deux saphirs d'une si belle eau. L'avez-vous donc troqué contre votre diamant ?»« Non, » dit D'Artagnan, « c'est un cadeau de ma belle anglaise, ou plutôt de ma belle française, car quoique je ne lui ai point demandé, je suis convaincu qu'elle est née en France. »« Cette bague vous vient de Milady ?» s'écria Athos, avec une voix dans laquelle il était facile de distinguer une grande émotion. « D'elle-même, elle me l'a donnée cette nuit. »« Montrez-moi donc cette bague, » dit Athos. « La voici, » répondit D'Artagnan en la tirant de son doigt. Athos l'examina et devint très pâle, puis il l'essaya à l'annulaire de sa main gauche. Elle allait à ce doigt comme si elle eût été faite pour lui. Un nuage de colère et de vengeance passa sur le front ordinairement si calme du gentilhomme. « Il est impossible que ce soit elle, » dit-il. « Comment cette bague se trouverait-elle entre les mains de Milady Clarik ? Et cependant, il est bien difficile qu'il y ait entre deux bijoux une pareille ressemblance. « Connaissez-vous cette bague ? » demanda D'Artagnan. « J'avais cru la reconnaître, » dit Athos, « mais sans doute que je me trompais. » Et il la rendit à D'Artagnan, sans cesser cependant de la regarder. « Tenez, » dit-il au bout d'un instant, « D'Artagnan, ôtez cette bague de votre doigt ou tournez-en le chaton en dedans. Elle me rappelle de si cruels souvenirs que je n'aurai pas ma tête pour causer avec vous. Ne veniez-vous pas me demander des conseils? Ne me disiez-vous point que vous étiez embarrassé sur ce que vous deviez faire? Mais attendez, rendez-moi ce saphir. » « Celui dont je voulais parler doit avoir une de ses faces éraillées par suite d'un accident. » D'Artagnan tira de nouveau la bague de son doigt et la rendit à Athos. Athos se tressaillit. « Tenez, » dit-il, « voyez, n'est-ce pas étrange ?» Et il montrait à D'Artagnan cette égratignure qu'il se rappelait devoir exister. « Mais de qui vous venait ce saphir, Athos ?»« De ma mère, qui le tenait de sa mère à elle. » Comme je vous le dis, c'est un vieux bijou de famille, qui ne devait jamais sortir de la famille. « Et vous l'avez vendu ?» demanda avec hésitation D'Artagnan. « Non, » reprit Athos, avec un singulier sourire. « Je l'ai donné pendant une nuit d'amour, comme il vous a été donné à vous. » D'Artagnan resta pensif à son tour. Il lui semblait voir dans l'âme de Milady des abîmes dont les profondeurs étaient sombres et inconnues. Il remit la bague, non pas à son doigt, mais dans sa poche. « Tenez, » dit Athos en lui prenant la main, « vous savez si je vous aime, D'Artagnan. J'aurai un fils que je ne l'aimerai pas plus que vous. Tenez, croyez-moi, renoncez à cette femme. Je ne la connais pas, mais une espèce d'intuition me dit que c'est une créature perdue et qu'il y a quelque chose de fatal en elle. » « Vous avez raison, » dit D'Artagnan. « Aussi je m'en sépare. Je vous avoue que cette femme m'effraie moi-même. »« Aurez-vous ce courage ?» dit Athos. « Je l'aurai, » répondit D'Artagnan, « et à l'instant même. »« Eh bien vrai, mon enfant, vous aurez raison, » dit le gentilhomme, en serrant la main du Gascon avec une affection presque paternelle. « Dieu veuille que cette femme, qui est à peine entrée dans votre vie, n'y laisse pas de traces terribles. » Et Athos salua D'Artagnan de la tête, en homme qui veut faire comprendre qu'il n'est pas fâché de rester seul avec ses pensées. En rentrant chez lui, D'Artagnan trouva Ketty, qui l'attendait. Un mois de fièvre n'eût pas plus changé la pauvre enfant qu'elle ne l'était par cette nuit d'insomnie et de douleur. Elle était envoyée par sa maîtresse au faux de Ward. Sa maîtresse était folle d'amour, ivre de joie. Elle voulait savoir quand son amant lui donnerait une seconde nuit. Et la pauvre Ketty, pâle et tremblante, attendait la réponse de D'Artagnan. Athos avait une grande influence sur le jeune homme. Les conseils de son ami, joints aux cris de son propre cœur, l'avaient déterminé, maintenant que son orgueil était sauvé et sa vengeance satisfaite, à ne plus revoir Milady. Pour toute réponse, il prit donc une plume et écrivit la lettre suivante. Ne comptez pas sur moi, madame, pour le prochain rendez-vous. Depuis ma convalescence, j'ai tant d'occupations de ce genre qu'il m'a fallu y mettre un certain ordre. Quand votre tour viendra, j'aurai l'honneur de vous en faire part. Je vous baise les mains, comte de Wardes. » Du saphir, pas un mot. Le Gascon voulait-il garder une arme contre Milady? Ou bien, soyons francs, ne conservait-il pas ce saphir comme une dernière ressource pour l'équipement? On aurait tort, au reste, de juger les actions d'une époque au point de vue d'une autre époque. Ce qui, aujourd'hui, serait regardé comme une honte pour un galant homme, était dans ce temps une chose toute simple et toute naturelle, et les cadets des meilleures familles se faisaient en général entretenir par leurs maîtresses. D'Artagnan passa sa lettre ouverte à Ketty, qui la lut d'abord sans la comprendre, et qui faillit devenir folle de joie en la relisant une seconde fois. Ketty ne pouvait croire à ce bonheur. D'Artagnan fut forcé de lui renouveler de vive voix les assurances que la lettre lui donnait par écrit, et quel que fût, avec le caractère emporté de Milady, le danger que courut la pauvre petite enfant à remettre ce billet à sa maîtresse, elle n'en revint pas moins place royale de toute la vitesse de ses jambes. Le cœur de la meilleure femme est impitoyable pour les douleurs d'une rivale. Milady ouvrit la lettre avec un empressement égal à celui que Ketty avait mis à la porter. Mais au premier mot qu'elle lut, elle devint livide. Puis elle froissa le papier. Puis elle se retourna avec un éclair dans les yeux du côté de Ketty. « Qu'est-ce que cette lettre ? » dit-elle. « Mais c'est la réponse à celle de madame, » répondit Ketty toute tremblante. « Impossible ! » s'écria Milady. « Impossible qu'un gentilhomme ait écrit à une femme une pareille lettre !» Puis tout à coup, tressaillant, « Mon Dieu, saurait-il ? » Et elle s'arrêta. Ses dents grinçaient. Elle était couleur de cendre. Elle voulut faire un pas vers la fenêtre pour aller chercher de l'air, mais elle ne put qu'étendre les bras. Les jambes lui manquèrent, et elle tomba sur un fauteuil. Ketty crut qu'elle se trouvait mal, et se précipita pour ouvrir son corsage. Mais Milady se releva vivement. « Que me voulez-vous » dit-elle. « Et pourquoi portez-vous la main sur moi ?»« J'ai pensé que madame se trouvait mal, et j'ai voulu lui porter secours, » répondit la suivante, tout épouvantée de l'expression terrible qu'avait prise la figure de sa maîtresse. « Me trouver mal ? Moi ? Moi ? Me prenez-vous pour une femmelette ? Quand on m'insulte, je ne me trouve pas mal, je me venge, entendez-vous ? » Et elle fit signe de la main à Ketty de sortir. Fin du chapitre 35.
Chapitre 36 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 36. Rêve de vengeance. Le soir, Milady donna l'ordre d'introduire M. d'Artagnan aussitôt qu'il viendrait, selon son habitude. Mais il ne vint pas. Le lendemain, Ketty vint voir de nouveau le jeune homme et lui raconta tout ce qui s'était passé la veille. D'Artagnan sourit. Cette jalouse colère de Milady, c'était sa vengeance. Le soir, Milady fut plus impatient encore que la veille. Elle renouvela l'ordre relatif au Gascon. Mais comme la veille, elle l'attendit inutilement. Le lendemain, Ketty se présenta chez D'Artagnan, non plus joyeuse et alerte comme les deux jours précédents, mais au contraire triste à mourir. D'Artagnan demanda à la pauvre fille ce qu'elle avait, mais celle-ci, pour toute réponse, tira une lettre de sa poche et la lui remit. Cette lettre était de l'écriture de Milady. Seulement, cette fois, elle était bien à l'adresse de D'Artagnan et non à celle de M. de Wardes. Il l'ouvrit et lut ce qu'il suit. « Cher monsieur d'Artagnan, c'est mal de négliger ainsi les amis, surtout au moment où on va les quitter pour si longtemps. Mon beau-frère et moi Vous avons attendu hier et avant-hier inutilement. En sera-t-il de même ce soir? Votre reconnaissante, Lady Clarick. C'est tout simple, dit d'Artagnan, et je m'attendais à cette lettre. Mon crédit hausse de la baisse du comte de Ward. Est-ce que vous irez? Demanda Ketty. Écoute, ma chère enfant, dit le Gascon, qui cherchait à s'excuser à ses propres yeux de manquer à la promesse qu'il avait faite à Athos. Tu comprends qu'il serait impolitique de ne pas se rendre à une invitation si positive. Milady, en ne me voyant pas revenir, ne comprendrait rien à l'interruption de mes visites. Elle pourrait se douter de quelque chose, et qui peut dire jusqu'où irait la vengeance d'une femme de cette trempe? « Oh, mon Dieu !» dit Ketty, « vous savez présenter les choses de façon que vous avez toujours raison. Mais vous allez encore lui faire la cour, et si cette fois vous alliez lui plaire sous votre véritable nom et votre véritable visage, ce serait bien pis que la première fois. » L'instinct faisait deviner à la pauvre fille une partie de ce qui allait arriver. D'Artagnan la rassura du mieux qu'il put et lui promit de rester insensible aux séductions de Milady. Il lui fit répondre qu'il était on ne peut plus reconnaissant de ses bontés et qu'il se rendait à ses ordres. Mais il n'osa lui écrire de peur de ne pouvoir, à des yeux aussi exercés que ceux de Milady, déguiser suffisamment son écriture. À 9 heures sonnant, D'Artagnan était place royale. Il était évident que les domestiques qui attendaient dans l'antichambre étaient prévenus, car aussitôt que D'Artagnan parut, avant même qu'il eût demandé si Milady était visible, un d'eux courut l'annoncer. « Faites entrer, » dit Milady d'une voix brève, mais si perçante que D'Artagnan l'entendit de l'antichambre. On l'introduisit. « Je n'y suis pour personne, » dit Milady. « Entendez-vous, pour personne. » Le laquais sortit. D'Artagnan jeta un regard curieux sur Milady. Elle était pâle et avait les yeux fatigués, soit par les larmes, soit par l'insomnie. On avait, avec intention, diminué le nombre habituel des lumières, et cependant, la jeune femme ne pouvait arriver à cacher les traces de la fièvre qui l'avait dévorée depuis 2 jours. D'Artagnan s'approcha d'elle avec sa galanterie ordinaire. Elle fit alors un effort suprême pour le recevoir. Mais jamais physionomie plus bouleversée ne démentit sourire plus aimable. Aux questions que D'Artagnan lui fit sur sa santé, « Mauvaise, répondit-elle, très mauvaise. »« Mais alors, dit D'Artagnan, je suis indiscret. Vous avez besoin de repos sans doute, et je vais me retirer. »« Non pas, dit Milady. Au contraire, restez, monsieur D'Artagnan. » Votre aimable compagnie me distraira. Oh, oh, pensa D'Artagnan, elle n'a jamais été si charmante, défions-nous. Milady prit l'air le plus affectueux qu'elle put prendre et donna tout l'éclat possible à sa conversation. En même temps, cette fièvre qui l'avait abandonnée un instant revenait rendre l'éclat à ses yeux, le coloris à ses joues, le carmin à ses lèvres. D'Artagnan retrouva la Circé qu'il avait déjà enveloppée de ses enchantements. Son amour, qu'il croyait éteint et qui n'était qu'assoupi, se réveilla dans son cœur. Milady souriait, et D'Artagnan sentait qu'il se damnerait pour ce sourire. Il eut un moment où il sentit quelque chose comme un remords de ce qu'il avait fait contre elle. Peu à peu, Milady devint plus communicative. Elle demanda à D'Artagnan s'il avait une maîtresse. « Hélas !» dit D'Artagnan, de l'air le plus sentimental qu'il put prendre. « Pouvez-vous être assez cruel pour me faire une pareille question, à moi qui, depuis que je vous ai vue, ne respire et ne soupire que par vous et pour vous ?» Milady sourit d'un étrange sourire. « Ainsi vous m'aimez ? » dit-elle. « Ai-je besoin de vous le dire ? Et ne vous en êtes-vous point aperçu ? » ?»« Si fait. Mais vous le savez, plus les cœurs sont fiers, plus ils sont difficiles à prendre. »« Oh, les difficultés ne m'effraient pas, » dit D'Artagnan. « Il n'y a que les impossibilités qui m'épouvantent. »« Rien n'est impossible, » dit Milady, « à un véritable amour. »« Rien, madame ?»« Rien, » reprit Milady. « Diable, » reprit D'Artagnan à part lui. la note est changée. Deviendrait-elle amoureuse de moi par hasard, la capricieuse, et serait-elle disposée à me donner à moi-même quelque autre saphir pareil à celui qu'elle m'a donné, me prenant pour de Wardes ? D'Artagnan rapprocha vivement son siège de celui de Milady. « Voyons, dit-elle, que feriez-vous bien pour prouver cet amour dont vous parlez ? Tout ce qu'on exigerait de moi, qu'on ordonne, et je suis prêt. »« À tout ?»« À tout !» s'écria d'Artagnan, qui savait d'avance qu'il n'avait pas grand-chose à risquer en s'engageant ainsi. « Eh bien, causons un peu, » dit à son tour Milady, en rapprochant son fauteuil de la chaise de d'Artagnan. « Je vous écoute, madame, » dit celui-ci. Milady resta un instant soucieuse et comme indécise, puis, paraissant prendre une résolution, « J'ai un ennemi, » dit-elle. « Vous, madame, » s'écria d'Artagnan, jouant la surprise. « Est-ce possible, mon Dieu, belle et bonne comme vous l'êtes ?»« Un ennemi mortel. » En vérité, un ennemi qui m'a insulté si cruellement que c'est entre lui et moi une guerre à mort. Puis-je compter sur vous comme auxiliaire ? D'Artagnan comprit sur le champ où la vindicative créature en voulait venir. « Vous le pouvez, madame, » dit-il avec emphase, « mon bras et ma vie vous appartiennent comme mon cœur. » « Alors, » dit Milady, « puisque vous êtes aussi généreux qu'amoureux, » Elle s'arrêta. « Eh bien ?» demanda d'Artagnan. « Eh bien, » reprit Milady, après un moment de silence. « Cessez dès aujourd'hui de parler d'impossibilité. »« Ne m'accablez pas de bonheur, » s'écria d'Artagnan, en se précipitant à genoux et en couvrant de baisers les mains qu'on lui abandonnait. « Venge-moi de cet infâme de Wardes, » se disait Milady entre ses dents, « et je saurais bien me débarrasser de toi ensuite, double sot, lame d'épée vivante. » Tombe volontairement entre mes mains, après m'avoir raillé si effrontément, hypocrite et dangereuse femme, disait d'Artagnan à part lui, et ensuite je rirai de toi avec celui que tu veux tuer par ma main. D'Artagnan releva la tête. Je suis prêt, dit-il. Vous m'avez donc comprise, cher monsieur d'Artagnan, dit Milady. Je devinerai un de vos regards. Ainsi, vous emploieriez pour moi votre bras qui s'est déjà acquis tant de renommée ? À l'instant même. Mais moi, dit Milady, comment paierai-je un pareil service ? Je connais les amoureux, ce sont des gens qui ne font rien pour rien. Vous savez la seule réponse que je désire, dit d'Artagnan, la seule qui soit digne de vous et moi. Et il l'attira doucement vers lui. Elle résista à peine. Intéressée, dit-elle en souriant. Ah ! S'écria d'Artagnan, véritablement emporté par la passion que cette femme avait le don d'allumer dans son cœur. Ah ! C'est que mon bonheur me paraît invraisemblable, et qu'ayant toujours peur de le voir s'envoler comme un rêve, j'ai hâte d'en faire une réalité. Eh bien, méritez donc ce prétendu bonheur. Je suis à vos ordres, dit d'Artagnan. Bien sûr, fit Milady avec un dernier doute. Nommez-moi l'infâme qui a pu faire pleurer vos beaux yeux. Qui vous dit que j'ai pleuré ? Dit-elle. Il me semblait. Les femmes comme moi ne pleurent pas, dit Milady. Tant mieux. Voyons, dites-moi comment il s'appelle. Songez que son nom, c'est tout mon secret. Il faut cependant que je sache son nom. Oui, il le faut. Voyez si j'ai confiance en vous. Vous me comblez de joie. Comment s'appelle-t-il? Vous le connaissez. Vraiment? Oui. Ce n'est pas un de mes amis? Reprit d'Artagnan, en jouant l'hésitation pour faire croire à son ignorance. Si c'était un de vos amis, vous hésiteriez donc? S'écria Milady. Et un éclair de menace passa dans ses yeux. Non, « Fût-ce mon frère !» s'écria d'Artagnan, comme emporté par l'enthousiasme. Notre Gascon s'avançait sans risque, car il savait où il allait. « J'aime votre dévouement, » dit Milady. « Hélas, n'aimez-vous que cela en moi ? demanda d'Artagnan. « Je vous aime aussi, vous, » dit-elle en lui prenant la main. Et l'ardente pression fit frissonner d'Artagnan, comme si, par le toucher, cette fièvre qui brûlait Milady le gagnait lui-même. « Vous m'aimez, vous ? » s'écria-t-il. « Oh, si cela était, ce serait à en perdre la raison. » Et il l'enveloppa de ses deux bras. Elle n'essaya point d'écarter ses lèvres de son baiser. Seulement, elle ne le lui rendit pas. Ses lèvres étaient froides. Il sembla à d'Artagnan qu'il venait d'embrasser une statue. Il n'en était pas moins ivre de joie, électrisé d'amour. Il croyait presque à la tendresse de Milady, et il croyait presque au crime de De Wardes. Si De Wardes eût été en ce moment sous sa main, il l'eût tué. Milady saisit l'occasion. « Il s'appelle, » dit-elle à son tour. « De Wardes, je le sais, » s'écria d'Artagnan. « Et comment le savez-vous ? » demanda Milady, en lui saisissant les deux mains et en essayant de lire par ses yeux jusqu'au fond de son âme. D'Artagnan sentit qu'il s'était laissé emporter et qu'il avait fait une faute. « Dites, dites, mais dites donc, » répétait Milady, « comment le savez-vous ? » « Comment je le sais ? » dit d'Artagnan. « Oui, je le sais, parce que hier De Wardes, dans un salon où j'étais, a montré une bague qu'il a dit tenir de vous. « Le misérable ! » s'écria Milady. L'épithète, comme on le comprend bien, retentit jusqu'au fond du cœur de d'Artagnan. « Eh bien, » continua-t-elle. « Eh bien, je vous vengerai de ce misérable, » reprit d'Artagnan, en se donnant des airs de Don Japhet d'Arménie. « Merci, mon brave ami, » s'écria Milady. « Et quand serai-je vengée ?»« Demain, tout de suite, quand vous voudrez. » Milady allait s'écrier tout de suite, mais elle réfléchit qu'une pareille précipitation serait peu gracieuse pour d'Artagnan. D'ailleurs, elle avait mille précautions à prendre, mille conseils à donner à son défenseur pour qu'il évitât les explications devant témoin avec le comte. Tout cela se trouva prévu par un mot de d'Artagnan. « Demain, dit-il, vous serez vengé ou je serai mort. »« Non, dit-elle, vous me vengerez, mais vous ne mourrez pas. C'est un lâche. »« Avec les femmes peut-être, pas avec les hommes. J'en sais quelque chose, moi. » »«
Mais il me semble que dans votre lutte avec lui, vous n'aviez pas eu à vous plaindre de la fortune. »«
La fortune est une courtisane. » « Favorable hier, elle peut me tourner le dos demain. »«
Ce qui veut dire que vous hésitez maintenant. »«
Non, je n'hésite pas, Dieu m'en garde. »« Mais serait-il juste de me laisser aller à une mort possible sans m'avoir donné au moins un peu plus que de l'espoir ?»
Milady répondit par un coup d'œil qui voulait dire
« N'est-ce que cela ? Parlez donc. »
Puis, accompagnant le coup d'œil de paroles explicatives,
« C'est trop juste. » dit-elle tendrement.
« Oh, vous êtes un ange !» dit le jeune homme.
« Ainsi, tout est convenu ? » dit-elle.
« Sauf ce que je vous demande, chère âme. »
« Mais lorsque je vous dis que vous pouvez vous fier à ma tendresse,
je n'ai pas de lendemain pour attendre.
Silence, j'entends mon frère. Il est inutile qu'il vous trouve ici. »
Elle sonna, Ketty parut.
« Sortez par cette porte, » dit-elle, en poussant une petite porte dérobée. « Et revenez à 11 heures. Nous achèverons cet entretien. Ketty vous introduira chez moi. » La pauvre enfant pensa tomber à la renverse en entendant ces paroles.
« Eh bien, que faites-vous, mademoiselle ? À demeurer là immobile comme une statue. Allons, reconduisez le cavalier. Et ce soir, à 11 heures, vous avez entendu. »
« Il paraît que ces rendez-vous sont à 11 heures, » pensa d'Artagnan. « C'est une habitude prise. » Milady lui tendit une main qu'il baisa tendrement. « Voyons, » dit-il, en se retirant et en répondant à peine aux reproches de Ketty. « Voyons, ne soyons pas un sot. Décidément, cette femme est une grande scélérate. Prenons garde. »
Fin du chapitre 36.
Chapitre 37 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 37. Le secret de Milady. D'Artagnan était sorti de l'hôtel au lieu de monter tout de suite chez Ketty, malgré les instances que lui avait faites la jeune fille. Et cela pour deux raisons. La première, parce que de cette façon, il évitait les reproches, les récriminations, les prières. La seconde, parce qu'il n'était pas fâché de lire un peu dans sa pensée, et s'il était possible, dans celle de cette femme. Tout ce qu'il y avait de plus clair là-dedans, c'est que D'Artagnan aimait Milady comme un fou, et qu'elle ne l'aimait pas le moins du monde. Un instant, D'Artagnan comprit que ce qu'il aurait mieux à faire serait de rentrer chez lui et d'écrire à Milady une longue lettre dans laquelle il lui avouerait que lui et de Wardes étaient jusqu'à présent absolument le même, et que par conséquent il ne pouvait s'engager, sous peine de suicide, à tuer de Wardes. Mais lui aussi était éperonné d'un féroce désir de vengeance. Il voulait posséder à son tour cette femme sous son propre nom. Et comme cette vengeance lui paraissait avoir une certaine douceur, il ne voulait point y renoncer. Il fit 5 ou 6 fois le tour de la place royale, se retournant de 10 pas en 10 pas pour regarder la lumière de l'appartement de Milady, qu'on apercevait à travers les jalousies. Il était évident que cette fois, la jeune femme était moins pressée que la première de rentrer dans sa chambre. Enfin, la lumière disparut. Avec cette lueur s'éteignit la dernière irrésolution dans le cœur de D'Artagnan. Il se rappela les détails de la première nuit, et le cœur bondissant, la tête en feu, il rentra dans l'hôtel et se précipita dans la chambre de Ketty. La jeune fille, pâle comme la mort, tremblant de tous ses membres, voulut arrêter son amant. Mais Milady, l'oreille au guet, avait entendu le bruit qu'avait fait D'Artagnan. Elle ouvrit la porte. « Venez, » dit-elle. Tout cela était d'une si incroyable impudence, d'une si monstrueuse effronterie, qu'à peine si D'Artagnan pouvait croire à ce qu'il voyait et à ce qu'il entendait. Il croyait être entraîné dans quelqu'une de ces intrigues fantastiques comme on en accomplit en rêve. Il ne s'élança pas moins vers Milady, cédant à cette attraction magnétique que l'aimant exerce sur le fer. La porte se referma derrière eux. Ketty s'élança à son tour contre la porte. La jalousie, la fureur, l'orgueil offensé, toutes les passions enfin qui se disputent le cœur d'une femme amoureuse la poussaient à une révélation. Mais elle était perdue si elle avouait avoir donné les mains à une pareille machination, et par-dessus tout, D'Artagnan était perdu pour elle. Cette dernière pensée d'amour lui conseilla encore ce dernier sacrifice. D'Artagnan, de son côté, était arrivé au comble de tous ses vœux. Ce n'était plus un rival qu'on aimait en lui. C'était lui-même qu'on avait l'air d'aimer. Une voix secrète lui disait bien au fond du cœur qu'il n'était qu'un instrument de vengeance que l'on caressait en attendant qu'il donnât la mort. Mais l'orgueil, mais l'amour-propre, mais la folie faisaient taire cette voix, étouffaient ce murmure. Puis notre Gascon, avec la dose de confiance que nous lui connaissons, se comparait à De Wardes et se demandait pourquoi, au bout du compte, on ne l'aimerait pas, lui aussi, pour lui-même. Il s'abandonna donc tout entier aux sensations du moment. Milady ne fut plus pour lui cette femme aux intentions fatales qu'il avait un instant épouvantée. Ce fut une maîtresse ardente et passionnée, s'abandonnant tout entière à un amour qu'elle semblait éprouver elle-même. 2 heures à peu près s'écoulèrent ainsi. Cependant, les transports des deux amants se calmèrent. Milady, qui n'avait point les mêmes motifs que D'Artagnan pour oublier, revint la première à la réalité et demanda au jeune homme Si les mesures qui devaient amener le lendemain entre lui et De Wardes une rencontre étaient bien arrêtées d'avance dans son esprit. Mais D'Artagnan, dont les idées avaient pris un tout autre cours, s'oublia comme un sot et répondit galamment qu'il était bien tard pour s'occuper de duels à coups d'épée. Cette froideur pour les seuls intérêts qui l'occupassent effraya Milady, dont les questions devinrent plus pressantes. Alors D'Artagnan, qui n'avait jamais sérieusement pensé à ce duel impossible, voulut détourner la conversation, mais il n'était plus de force. Milady le contint dans les limites qu'elle avait tracées d'avance, avec son esprit irrésistible et sa volonté de faire. D'Artagnan se crut fort spirituel en conseillant à Milady de renoncer, en pardonnant à De Wardes, au projet furieux qu'elle avait formé. Mais au premier mot qu'il dit, la jeune femme tressaillit et s'éloigna.
« Auriez-vous peur, cher D'Artagnan ? » dit-elle d'une voix aiguë et railleuse, qui résonna étrangement dans l'obscurité.
« Vous ne le pensez pas, chère âme, » répondit D'Artagnan. « Mais enfin, si ce pauvre comte de Wardes était moins coupable que vous ne le pensez. » « En tout cas, » dit gravement Milady, « il m'a trompé. Et du moment où il m'a trompé, il a mérité la mort. »
Il mourra donc, puisque vous le condamnez, dit D'Artagnan d'un ton si ferme qu'il parut à Milady l'expression d'un dévouement à toute épreuve. Aussitôt, elle se rapprocha de lui. Nous ne pourrions dire le temps que dura la nuit pour Milady. Mais D'Artagnan croyait être près d'elle depuis 2 heures à peine, lorsque le jour parut aux fentes des jalousies, et bientôt envahit la chambre de sa lueur blafarde. Alors, Milady, voyant que D'Artagnan allait la quitter, lui rappela la promesse qu'il lui avait faite de la venger de De Wardes. « Je suis tout prêt, » dit D'Artagnan. « Mais auparavant, je voudrais être certain d'une chose. »«
De laquelle ?» demanda Milady.
« C'est que vous m'aimez. »«
Je vous en ai donné la preuve, ce me semble. »«
Oui, aussi je suis à vous corps et âme. »«
Merci, mon brave amant, mais de même que je vous ai prouvé mon amour. » Vous me prouverez le vôtre à votre tour, n'est-ce pas ?
Certainement, mais si vous m'aimez comme vous le dites, reprit D'Artagnan, ne craignez-vous pas un peu pour moi ?
Que puis-je craindre ?
Mais enfin, que je sois blessé dangereusement, tué même.
Impossible, dit Milady, vous êtes un homme si vaillant et une si fine épée.
Vous ne préféreriez donc point, reprit D'Artagnan, un moyen qui vous vengerait de même, tout en rendant inutile le combat.
Milady regarda son amant en silence. Cette lueur blafarde des premiers rayons du jour donnait à ses yeux clairs une expression étrangement funeste.
« Vraiment, dit-elle, je crois que voilà que vous hésitez maintenant. »«
Non, je n'hésite pas. Mais c'est que ce pauvre comte de Wardes me fait vraiment peine depuis que vous ne l'aimez plus. Et il me semble qu'un homme doit être si cruellement puni par la perte seule de votre amour, qu'il n'a pas besoin d'autre châtiment.
« Qui vous dit que je l'ai aimé ? » demanda Milady.
« Au moins puis-je croire maintenant, sans trop de fatuité, que vous en aimez un autre, » dit le jeune homme d'un ton caressant. « Je vous le répète, je m'intéresse au comte. »«
Vous ? » demanda Milady.
« Oui, moi. »«
Et pourquoi vous ? » ?»«
Parce que seul je sais... »
« Quoi ? » ?»«
Qu'il est loin d'être, ou plutôt d'avoir été, aussi coupable envers vous qu'il le paraît. »«
En vérité, » dit Milady d'un air inquiet. « Expliquez-vous, je ne sais vraiment ce que vous voulez dire. »
Et elle regardait D'Artagnan, qui la tenait embrassée, avec des yeux qui semblaient s'enflammer peu à peu.
« Oui, je suis galant homme, moi, » dit D'Artagnan, décidé à en finir. Et depuis que votre amour est à moi, que je suis bien sûr de le posséder, car je le possède, n'est-ce pas ?
Tout entier, continuez.
Eh bien, je me sens comme transporté. Un aveu me pèse.
Un aveu !
Si j'eusse douté de votre amour, je ne l'eusse pas fait. Mais vous m'aimez, ma belle maîtresse, n'est-ce pas ? Vous m'aimez ?
Sans doute.
Alors si, par excès d'amour, je me suis rendu coupable envers vous. Vous me pardonnerez ?
Peut-être.
D'Artagnan essaya, avec le plus doux sourire qu'il put prendre, de rapprocher ses lèvres des lèvres de Milady. Mais celle-ci l'écarta.
Cet aveu, dit-elle en pâlissant.
Quel est cet aveu?
Vous aviez donné rendez-vous à Devoir de jeudi dernier, dans cette même chambre, n'est-ce pas?
Moi, non, cela n'est pas, dit Milady, d'un ton de voix si ferme et d'un visage si impassible, que si D'Artagnan n'eût pas eu une certitude si parfaite, il eût douté.
Ne mentez pas, mon bel ange, dit D'Artagnan en souriant. Ce serait inutile.
Comment cela? Parlez donc. Vous me faites mourir.
Oh, rassurez-vous, vous n'êtes point coupable envers moi, et je vous ai déjà pardonné.
Après, après.
Devoir de ne peut se glorifier de rien.
Pourquoi? Vous m'avez dit vous-même que cette bague...
Cette bague, mon amour, c'est moi qui l'ai. Le duc de Wardes de jeudi et le D'Artagnan d'aujourd'hui sont la même personne. L'impudent s'attendait à une surprise mêlée de pudeur, à un petit orage qui se résoudrait en larmes. Mais il se trompait étrangement, et son erreur ne fut pas longue. Pâle et terrible, Milady se redressa, et repoussant D'Artagnan d'un violent coup dans la poitrine, elle s'élança hors du lit. Il faisait alors presque grand jour. D'Artagnan la retint par son peignoir de fine toile des Indes pour implorer son pardon. Mais elle, d'un mouvement puissant et résolu, elle essaya de fuir. Alors, la batiste se déchira en laissant nues les épaules, et sur l'une de ses belles épaules rondes et blanches, D'Artagnan, avec un saisissement inexprimable, reconnut la fleur de lys, cette marque indélébile qu'imprime la main infamante du bourreau. « Grand Dieu ! » s'écria D'Artagnan en lâchant le peignoir. Et il demeura muet, immobile et glacé sur le lit. Mais Milady se sentait dénoncée par l'effroi même de D'Artagnan. Sans doute, il avait tout vu. Le jeune homme maintenant savait son secret, secret terrible que tout le monde ignorait, excepté lui. Elle se retourna, non plus comme une femme furieuse, mais comme une panthère blessée. « Ah, misérable, dit-elle, tu m'as lâchement trahi, et de plus tu as mon secret, tu mourras !» Et elle courut à un coffret de marqueterie posé sur la toilette, l'ouvrit d'une main fiévreuse et tremblante, en tira un petit poignard à manche d'or, à la lame aiguë et mince, et revint d'un bond sur D'Artagnan à demi nu. Quoique le jeune homme fût brave, on le sait, il fut épouvanté de cette figure bouleversée, de ses pupilles dilatées horriblement, de ses joues pâles et de ses lèvres sanglantes. Il recula jusqu'à la ruelle, comme il l'eût fait à l'approche d'un serpent qui eût rampé vers lui, et son épée se rencontrant sous sa main souillée de sueur, il la tira du fourreau. Mais sans s'inquiéter de l'épée, Milady essaya de remonter sur le lit pour le frapper, et elle ne s'arrêta que lorsqu'elle sentit la pointe aiguë sur sa gorge. Alors, elle essaya de saisir cette épée avec ses mains, mais D'Artagnan l'écarta toujours de ses étreintes, et, la lui présentant tantôt aux yeux, tantôt à la poitrine, il se laissa glisser à bas du lit, cherchant pour faire retraite la porte qui conduisait chez Ketty. Milady, pendant ce temps, se ruait sur lui avec d'horribles transports, rugissant d'une façon formidable. Cependant, cela ressemblait à un duel. Aussi, D'Artagnan se remettait petit à petit. « Bien, belle dame, bien, disait-il, mais de par Dieu, calmez-vous, ou je vous dessine une seconde fleur de lys sur ses belles joues. »« Infâme, infâme !» hurlait Milady. Mais D'Artagnan, cherchant toujours la porte, se tenait sur la défensive. Au bruit qu'il faisait, elle, renversant les meubles pour aller à lui, lui, s'abritant derrière les meubles pour se garantir d'elle, Ketty ouvrit la porte. D'Artagnan, qui avait sans cesse manœuvré pour se rapprocher de cette porte, n'en était plus qu'à trois pas. D'un seul élan, il s'élança de la chambre de Milady dans celle de la suivante, et rapide comme l'éclair, il referma la porte, contre laquelle il s'appuya de tout son poids, tandis que Ketty poussait les verrous. Alors, Milady essaya de renverser l'arc-boutant qui l'enfermait dans sa chambre, avec des forces bien au-dessus de celles d'une femme. Puis, lorsqu'elle sentit que c'était chose impossible, elle cribla la porte de coups de poignard, dont quelques-uns traversèrent l'épaisseur du bois. Chaque coup était accompagné d'une imprécation terrible. « Vite, vite, Ketty, » dit D'Artagnan, à demi-voix, lorsque les verrous furent mis. « Fais-moi sortir de l'hôtel, ou si nous lui laissons le temps de se retourner, elle me fera tuer par les laquais. »
« Mais vous ne pouvez pas sortir ainsi, » dit Ketty. « Vous êtes tout nu. »
« C'est vrai, » dit D'Artagnan, qui s'aperçut alors seulement du costume dans lequel il se trouvait. « C'est vrai. Habille-moi comme tu pourras, mais hâtons-nous. Comprends-tu, il y a de la vie ou de la mort. » Ketty ne comprenait que trop. En un tour de main, elle l'affubla d'une robe à fleurs, d'une large coiffe et d'un mantelet. Elle lui donna des pantoufles, dans lesquelles il passa ses pieds nus, puis elle l'entraîna par les degrés. Il était temps. Milady avait déjà sonné et réveillé tout l'hôtel. Le portier tira le cordon à la voix de Ketty, au moment même où Milady, à demi nue de son côté, criait par la fenêtre « N'ouvrez pas !» Fin du chapitre 37.
Chapitre 38 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 38. Comment, sans se déranger, Athos trouva son équipement. Le jeune homme s'enfuit, tandis qu'elle le menaçait encore d'un geste impuissant. Au moment où elle le perdit de vue, Milady tomba évanouie dans sa chambre. D'Artagnan était tellement bouleversé que, sans s'inquiéter de ce que deviendrait Ketty, il traversa la moitié de Paris tout courant et ne s'arrêta que devant la porte d'Athos. L'égarement de son esprit, la terreur qui l'éperonnait, les cris de quelques patrouilles qui se mirent à sa poursuite et les huées de quelques passants qui, malgré l'heure peu avancée, se rendaient à leurs affaires, ne firent que précipiter sa course. Il traversa la cour, monta les deux étages d'Athos, et frappa à la porte à tout rompre. Grimaud vint ouvrir les yeux bouffis de sommeil. D'Artagnan s'élança avec tant de force dans la chambre qu'il faillit le culbuter en entrant. Malgré le mutisme habituel du pauvre garçon, cette fois, la parole lui revint. « Eh là, là !» s'écria-t-il. « Que voulez-vous, coureuse? Que demandez-vous, drôlesse ?» D'Artagnan releva ses coiffes et dégagea ses mains de dessous son mantelet. À la vue des moustaches et de l'épée nue, le pauvre diable s'aperçut qu'il avait affaire à un homme. Il crut alors que c'était quelque assassin. « Au secours, à l'aide, au secours » s'écria-t-il. « Tais-toi, malheureux !» dit le jeune homme. « Je suis D'Artagnan. Ne me reconnais-tu pas? Où est ton maître ?»«
Vous, monsieur D'Artagnan !» s'écria Grimaud.
« Impossible !»« Grimaud !» dit Athos, sortant de son appartement en robe de chambre. « Je crois que vous vous permettez de parler. »«
Oh, monsieur, c'est que... Silence !»
Grimaud se contenta de montrer du doigt D'Artagnan à son maître. Athos reconnut son camarade. Et tout flegmatique qu'il était, il partit d'un éclat de rire qui motivait bien la mascarade étrange qu'il avait sous les yeux. Coiffe de travers, jupe tombante sur les souliers, manches retroussées et moustache raide d'émotion.
« Ne riez pas, mon ami !» s'écria D'Artagnan. « De par le ciel, ne riez pas, car sur mon âme, je vous le dis, il n'y a point de quoi rire. »
Et il prononça ces mots d'un air si solennel et avec une épouvante si vraie, qu'Athos lui prit aussitôt les mains en s'écriant. « Seriez-vous blessé, mon ami? Vous êtes bien pâle. »«
Non, mais il vient de m'arriver un terrible événement. Êtes-vous seul, Athos ?»«
Parbleu, qui voulez-vous donc qu'il soit chez moi à cette heure ?»«
Bien, bien. »
Et D'Artagnan se précipita dans la chambre d'Athos.
« Et parlez, dit celui-ci en refermant la porte et en poussant les verrous pour n'être pas dérangé. « Le roi est-il mort? Avez-vous tué monsieur le cardinal? Vous êtes tout renversé. Voyons, voyons, dites, je meurs véritablement d'inquiétude. »
Athos, dit d'Artagnan, se débarrassant de ses vêtements de femme et apparaissant en chemise, préparez-vous à entendre une histoire incroyable, inouïe.
Prenez d'abord cette robe de chambre, dit le mousquetaire à son ami.
D'Artagnan passa la robe de chambre, prenant une manche pour une autre, tant il était encore ému.
Eh bien, dit Athos.
Eh bien, répondit d'Artagnan, en se courbant vers l'oreille d'Athos et en baissant la voix.
Milady est marquée d'une fleur de lys à l'épaule.
Ah! Cria le mousquetaire, comme s'il eût reçu une balle dans le cœur.
Voyons, dit d'Artagnan, êtes-vous sûr que l'autre soit bien morte?
L'autre, dit Athos, d'une voix si sourde qu'à peine si d'Artagnan l'entendit.
Oui, celle dont vous m'avez parlé un jour à Amiens.
Athos poussa un gémissement et laissa tomber sa tête dans ses mains.
Celle-ci, continua d'Artagnan, est une femme de 26 à 28 ans.
Blonde, dit Athos, n'est-ce pas?
Oui.
Des yeux bleus clairs, d'une clarté étrange, avec des cils et des sourcils noirs.
Grande, bien faite, il lui manque une dent près de l'œillère à gauche.
Oui.
La fleur de lys est petite, rousse de couleur, et comme effacée par les couches de pâte qu'on y applique.
Oui.
Cependant, vous dites qu'elle est anglaise?
On l'appelle Milady, mais elle peut être française. Malgré cela, Lord de Winter n'est que son beau-frère.
Je veux la voir, d'Artagnan.
Prenez garde, Athos, prenez garde.
Vous avez voulu la tuer, elle est femme à vous rendre la pareille et à ne pas vous manquer.
Elle n'osera rien dire, car ce serait se dénoncer elle-même.
Elle est capable de tout. L'avez-vous jamais vue furieuse?
Non, dit Athos.
Une tigresse, une panthère.
Ah, mon cher Athos, j'ai bien peur d'avoir attiré sur nous deux une vengeance terrible.
D'Artagnan raconta tout alors la colère insensée de Milady et ses menaces de mort.
Vous avez raison, et sur mon âme, je donnerais ma vie pour un cheveu, dit Athos.
Heureusement, c'est après-demain que nous partons de Paris. Nous allons, selon toute probabilité, à La Rochelle. Et une fois partie, elle vous suivra jusqu'au bout du monde, Athos, si elle vous reconnaît. Laissez donc sa haine s'exercer sur moi seul.
Ah, mon cher, que m'importe qu'elle me tue, dit Athos.
Est-ce que par hasard, vous croyez que je tiens à la vie?
Il y a quelque horrible mystère sous tout cela, Athos. Cette femme est l'espion du cardinal, j'en suis sûr.
En ce cas, prenez garde à vous. Si le cardinal ne vous a pas dans une haute admiration pour l'affaire de Londres, il vous a en grande haine. Mais comme, au bout du compte, il ne peut rien vous reprocher ostensiblement, et qu'il faut que haine passe, surtout quand c'est une haine de cardinal, prenez garde à vous. Si vous sortez, ne sortez pas seul. Si vous mangez, prenez vos précautions. Méfiez-vous de tout, enfin, même de votre ombre.
Heureusement, dit d'Artagnan, qu'il s'agit seulement d'aller jusqu'après-demain soir sans encombre, car une fois à l'armée, nous n'aurons plus, je l'espère, que des hommes à craindre.
En attendant, dit Athos, je renonce à mes projets de réclusion, et je vais partout avec vous. Il faut que vous retourniez rue des Fossoyeurs. Je vous accompagne.
Mais si près que ce soit d'ici, reprit d'Artagnan, je ne puis y retourner comme cela.
C'est juste, dit Athos.
Et il tira la sonnette.
Grimaud entra.
Athos lui fit signe d'aller chez d'Artagnan et d'en rapporter des habits.
Grimaud répondit par un autre signe qu'il comprenait parfaitement et partit.
Ah ça! Mais voilà qui ne nous avance pas pour l'équipement, cher ami, dit Athos. Car, si je m'en abuse, vous avez laissé toute votre défroque chez Milady, qui n'aura sans doute pas l'intention de vous la retourner. Heureusement que vous avez le saphir.
Le saphir est à vous, mon cher Athos. Ne m'avez-vous pas dit que c'était une bague de famille?
Oui. Mon père l'acheta 2000 écus, à ce qu'il me dit autrefois. Il faisait partie des cadeaux de noces qu'il fit à ma mère,
et il est magnifique. Ma mère me le donna, et moi, fou que j'étais, plutôt que de garder cette bague comme une relique sainte, je la donnai à mon tour à cette misérable. Athos, mon cher, reprenez cette bague, à laquelle je comprends que vous devez tenir. Moi, reprendre cette bague, après qu'elle a passé par les mains de l'infâme, jamais, cette bague est souillée, d'Artagnan. Vendez-la donc. Vendre un diamant qui vient de ma mère. Je vous avoue que je regardais cela comme une profanation. Alors engagez-le, on vous prêtera bien dessus 1 000 000 d'écus. Avec cette somme, vous serez au-dessus de vos affaires. Puis, au premier argent qui vous rentrera, vous le dégagerez, et vous le reprendrez bien lavé de ses anciennes taches, car il aura passé par les mains des usuriers. Athos sourit. Vous êtes un charmant compagnon, dit-il, mon cher d'Artagnan. Vous relevez par votre éternelle gaieté les pauvres esprits dans l'affliction. Eh bien oui, engageons cette bague, mais à une condition. Laquelle? C'est qu'il y aura 500 écus pour vous et 500 écus pour moi. Y songez-vous, Athos, je n'ai pas besoin du quart de cette somme, moi qui suis dans les gardes, et en vendant ma selle, je me la procurerai. Que me faut-il? Un cheval pour Planchet, voilà tout. Puis, vous oubliez que j'ai une bague aussi. À laquelle vous tenez, encore plus, ce me semble, que je tiens, moi, à la mienne. Du moins, j'ai cru m'en apercevoir. Oui, car dans une circonstance extrême, elle peut nous tirer non seulement de quelque grand embarras, mais encore de quelque grand danger. C'est non seulement un diamant précieux, mais encore un talisman enchanté. Je ne vous comprends pas, mais je crois à ce que vous me dites. Revenons donc à ma bague, ou plutôt à la vôtre. Vous toucherez la moitié de la somme qu'on nous donnera sur elle, ou je la jette dans la Seine. Et je doute que, comme à Polycrate, quelque poisson soit assez complaisant pour nous la rapporter. Eh bien donc, j'accepte, dit d'Artagnan. En ce moment, Grimaud rentra, accompagné de Planchet. Celui-ci, inquiet de son maître et curieux de savoir ce qui lui était arrivé, avait profité de la circonstance et apportait les habits lui-même. D'Artagnan s'habilla, Athos en fit autant. Puis, quand tous deux furent prêts à sortir, ce dernier fit à Grimaud le signe d'un homme qui met en joue. Celui-ci décrocha aussitôt son mousqueton et s'apprêta à accompagner son maître. Ils arrivèrent sans accident à la rue des Fossoyeurs. Bonacieux était sur la porte. Il regardait d'Artagnan d'un air goguenard. « Eh, mon cher locataire, dit-il, hâtez-vous donc, vous avez une belle jeune fille qui vous attend chez vous. Et les femmes, vous le savez, n'aiment pas qu'on les fasse attendre. »« C'est Ketty, s'écria d'Artagnan. » Et il s'élança dans l'allée. Effectivement, sur le carré conduisant à sa chambre, et tapis contre sa porte, il trouva la pauvre enfant toute tremblante. Dès qu'elle l'aperçut, « Vous m'avez promis votre protection. Vous m'avez promis de me sauver de sa colère, dit-elle. Souvenez-vous que c'est vous qui m'avez perdue. » « Oui, sans doute, dit d'Artagnan. Sois tranquille, Ketty. Mais qu'est-il arrivé après mon départ ?»« Le sais-je, dit Ketty. Au cri qu'elle a poussé, les laquais sont accourus. Elle était folle de colère. Tout ce qu'il existe d'imprécation, elle les a vomis contre vous. Alors j'ai pensé qu'elle se rappellerait que c'était par ma chambre que vous avez pénétré dans la sienne, et qu'alors elle songerait que j'étais votre complice. J'ai pris le peu d'argent que j'avais, mes hardes les plus précieuses, et je me suis sauvée. Pauvre enfant, mais que vais-je faire de toi? Je pars après-demain. Tout ce que vous voudrez, monsieur le cavalier, faites-moi quitter Paris, faites-moi quitter la France. Je ne puis cependant pas t'emmener au siège de La Rochelle, dit d'Artagnan. Non, mais vous pouvez me placer en province, chez quelques dames de votre connaissance, dans votre pays, par exemple. Ah, ma chère amie, dans mon pays, les dames n'ont point de femmes de chambre. Mais attends, j'ai ton affaire. Planchet, va me chercher Aramis, qu'il vienne tout de suite. Nous avons quelque chose de très important à lui dire. Je comprends, dit Athos. Mais pourquoi pas Porthos? Il me semble que sa marquise... La marquise de Porthos se fait habiller par les clercs de son mari, dit d'Artagnan, en riant. D'ailleurs, Ketty ne voudrait pas demeurer rue aux Ours, n'est-ce pas, Ketty? Je demeurerai où l'on voudra, dit Ketty, pourvu que je sois bien cachée et que l'on ne sache pas où je suis.
Maintenant, Ketty, nous allons nous séparer, et par conséquent que tu n'es plus jalouse de moi.
Monsieur le cavalier, de loin ou de près, dit Ketty, je vous aimerai toujours.
Où diable la constance va-t-elle se nicher, murmura Athos.
Moi aussi, dit d'Artagnan, moi aussi, je t'aimerai toujours, sois tranquille. Mais voyons, réponds-moi. Maintenant, j'attache une grande importance à la question que je te fais. N'aurais-tu jamais entendu parler d'une jeune femme qu'on aurait enlevée pendant une nuit?
Attendez donc. Oh, mon Dieu, monsieur le cavalier, est-ce que vous aimez encore cette femme?
Non, c'est un de mes amis qui l'aime. Tiens, c'est Athos que voilà.
Moi?
S'écria Athos, avec un accent pareil à celui d'un homme qui s'aperçoit qu'il va marcher sur une couleuvre.
Sans doute, toi, fit d'Artagnan en serrant la main d'Athos. Tu sais bien l'intérêt que nous prenons tous à cette pauvre petite madame Bonacieux. D'ailleurs, Ketty ne dira rien, n'est-ce pas, Ketty? Tu comprends, mon enfant, continua d'Artagnan, c'est la femme de cet affreux magot que tu as vu sur le pas de la porte en entrant ici.
Oh, mon Dieu, s'écria Ketty. Vous me rappelez ma peur, pourvu qu'il ne m'ait pas reconnu.
Comment reconnu? Tu as donc déjà vu cet homme?
Il est venu deux fois chez Milady.
C'est cela. Vers quelle époque?
Mais il y a 15 ou 18 jours à peu près.
Justement.
Et hier soir, il est revenu.
Hier soir?
Oui, un instant avant que vous ne vinssiez vous-même.
Mon cher Athos, nous sommes enveloppés dans un réseau d'espions. Et tu crois qu'il t'a reconnu, Ketty?
J'ai baissé ma coiffe en l'apercevant, mais peut-être était-il trop tard.
Descendez, Athos, dont il se méfie moins que moi, et voyez s'il est toujours sur sa porte. Athos descendit et remonta bientôt. Il est parti, dit-il, et la maison est fermée. Il est allé faire son rapport et dire que tous les pigeons sont en ce moment au colombier.
Eh bien, mais envolons-nous, dit Athos, et ne laissons ici que Planchet pour nous rapporter les nouvelles.
Un instant, et Aramis que nous avons envoyé chercher.
C'est juste, Athos. Attendons Aramis.
En ce moment, Aramis entra. On lui exposa l'affaire, et on lui dit comment il était urgent que parmi toutes ses hautes connaissances, il trouvât une place à Ketty. Aramis réfléchit un instant, et dit en rougissant,
« Cela vous rendrait-il bien réellement service, d'Artagnan?
Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. »
Eh bien, madame de Bois-Tracy m'a demandé, pour une de ses amies qui habite la province, je crois, une femme de chambre sûre. Et si vous pouvez, mon cher d'Artagnan, me répondre de mademoiselle?
« Oh, monsieur, s'écria Ketty, je serai toute dévouée, soyez-en certain, à la personne qui me donnera les moyens de quitter Paris. »
Alors, dit Aramis, cela va pour le mieux. Il se mit à une table et écrivit un petit mot qu'il cacheta avec une bague, et donna le billet à Ketty.
Maintenant, mon enfant, dit d'Artagnan, tu sais qu'il ne fait pas meilleur ici pour nous que pour toi. Ainsi séparons-nous. Nous nous retrouverons dans des jours meilleurs.
Et dans quelque temps que nous nous retrouvions, et dans quelque lieu que ce soit, dit Ketty, vous me retrouverez vous aimant encore comme je vous aime aujourd'hui.
Serment de joueur, dit Athos, pendant que d'Artagnan allait reconduire Ketty sur l'escalier. Un instant après, les trois jeunes gens se séparèrent en prenant rendez-vous à 4 heures chez Athos et en laissant Planchet pour garder la maison. Aramis rentra chez lui, et Athos et d'Artagnan s'inquiétèrent du placement du saphir. Comme l'avait prévu notre Gascon, on trouva facilement 300 pistoles sur la bague. De plus, le juif annonça que si on voulait la lui vendre, comme elle lui ferait un pendant magnifique pour des boucles d'oreilles, il en donnerait jusqu'à 500 pistoles. Athos et d'Artagnan, avec l'activité de 2 soldats et la science de 2 connaisseurs, mirent 3 heures à peine à acheter tout l'équipement du mousquetaire. D'ailleurs, Athos était de bonne composition, et grand seigneur jusqu'au bout des ongles. Chaque fois qu'une chose lui convenait, il payait le prix demandé, sans essayer même d'en rabattre.
D'Artagnan voulait bien là-dessus faire ses observations, mais Athos lui posa la main sur l'épaule en souriant, et D'Artagnan comprenait que c'était bon pour lui, petit gentilhomme gascon, de marchander, mais non pour un homme qui avait les airs d'un prince. Le mousquetaire trouva un superbe cheval andalou, noir comme du jais, aux narines de feu, aux jambes fines et élégantes, qui prenait 6 ans. Il l'examina et le trouva sans défaut. On le lui fit 1000 livres. Peut-être l'eût-il eu pour moi, mais tandis que D'Artagnan discutait sur le prix avec le maquignon, Athos comptait les 500 pistoles sur la table. Grimaud eut un cheval picard, trapu et fort, qui coûta 300 livres. Mais la selle de ce dernier cheval et les armes de Grimaud achetées, il ne restait plus un sou sur les 150 pistoles d'Athos. D'Artagnan offrit à son ami de mordre une bouchée dans la part qui lui revenait, quitte à lui rendre plus tard ce qu'il lui aurait emprunté. Mais Athos, pour toute réponse, se contenta de hausser les épaules. Combien le juif donnait-il du saphir pour l'avoir en taux de propriété? Demanda Athos. 500 pistoles. C'est-à-dire 200 pistoles de plus. 100 pistoles pour vous, 100 pistoles pour moi. Mais c'est une véritable fortune, cela, mon ami. Retournez chez le juif. Comment, vous voulez? Cette bague, décidément, me rappellerait de trop tristes souvenirs. Puis nous n'aurons jamais 300 pistoles à lui rendre, de sorte que nous perdrions 2000 livres à ce marché. Allez lui dire que la bague est à lui, D'Artagnan, et revenez avec les 200 pistoles. Réfléchissez, Athos. L'argent comptant est cher par le temps qui court, et il faut savoir faire des sacrifices. Allez, D'Artagnan, allez. Grimaud vous accompagnera avec son mousqueton. Une demi-heure après, D'Artagnan revint avec les 2000 livres et sans qu'il lui fût arrivé aucun accident. Ce fut ainsi qu'Athos trouva dans son ménage des ressources auxquelles il ne s'attendait pas. Fin du chapitre 38.
Chapitre 39 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 39. Une vision. À 4 heures, les 4 amis étaient donc réunis chez Athos. Leurs préoccupations sur l'équipement avait tout à fait disparu, et chaque visage ne conservait plus l'expression que de ses propres et secrètes inquiétudes, car derrière tout bonheur présent est cachée une crainte à venir. Tout à coup, Planchet entra, apportant 2 lettres à l'adresse de D'Artagnan. L'une était un petit billet gentiment plié en long, avec un joli cachet de cire verte sur lequel était empreinte une colombe rapportant un rameau vert. L'autre était une grande épître carrée et resplendissante des armes terribles de son éminence, le cardinal-duc. À la vue de la petite lettre, le cœur de D'Artagnan bondit, car il avait cru reconnaître l'écriture. Et quoiqu'il n'eût vu cette écriture qu'une fois, la mémoire en était restée au plus profond de son cœur. Il prit donc la petite épître et la décacheta vivement. « Promenez-vous, lui disait-on, mercredi prochain, de 6 à 7 heures du soir, sur la route de Chaillot, et regardez avec soin dans les carrosses qui passeront, mais si vous tenez à la vie et à celle des gens qui vous aiment, ne dites pas un mot, ne faites pas un mouvement qui puisse faire croire que vous avez reconnu celle qui s'expose à tout pour vous apercevoir un instant. Pas de signature. C'est un piège, dit Athos. N'y allez pas, D'Artagnan. Cependant, dit D'Artagnan, il me semble bien reconnaître l'écriture. Elle est peut-être contrefaite, reprit Athos. À 6 ou 7 heures, dans ce temps-ci, la route de Chaillot est tout à fait déserte, autant que vous alliez vous promener dans la forêt de Bondy. Mais si nous y allions tous, dit D'Artagnan, que diable, on ne nous dévorera point tous les 4. Plus 4 laquais,
plus les chevaux, plus les armes. Puis, ce sera une occasion de montrer nos équipages, dit Porthos.
Mais si c'est une femme qui écrit, dit Aramis, et que cette femme désire ne pas être vue, songez que vous la compromettez, d'Artagnan, ce qui est mal de la part d'un gentilhomme.
Nous resterons en arrière, dit Porthos, et lui seul s'avancera.
Oui, mais un coup de pistolet est bientôt tiré d'un carrosse qui marche au galop.
Bah, dit d'Artagnan, on me manquera. Nous rejoindrons alors le carrosse, et nous exterminerons ceux qui se trouvent dedans. Ce sera toujours autant d'ennemis de moins.
Il a raison, dit Porthos. Bataille! Il faut bien essayer nos armes, d'ailleurs.
Bah, donnons-nous ce plaisir, dit Aramis, de son air doux et nonchalant.
Comme vous voudrez, dit Athos. Messieurs, dit d'Artagnan, il est 4h30, et nous avons le temps à peine d'être à 6h sur la route de Chaillot.
Puis, si nous sortions trop tard, dit Porthos, on ne nous verrait pas, ce qui serait dommage. Allons donc nous apprêter, messieurs.
Mais cette seconde lettre, dit Athos, vous l'oubliez. Il me semble que le cachet indique cependant qu'elle mérite bien d'être ouverte. Quant à moi, je vous déclare, mon cher d'Artagnan, que je m'en soucie bien plus que du petit brimborion que vous venez tout doucement de glisser sur votre cœur.
D'Artagnan rougit.
Eh bien, dit le jeune homme, voyons, messieurs, ce que me veut son éminence. Et d'Artagnan décacheta la lettre et lut.
Monsieur d'Artagnan, garde du roi, compagnie des Essarts, est attendu au palais cardinal ce soir à 8h. La Houdinière, capitaine des gardes.
Diable, dit Athos, voilà un rendez-vous bien autrement inquiétant que l'autre.
J'irai au second en sortant du premier, dit d'Artagnan. L'un est pour 7h, l'autre pour 8. Il y aura temps pour tout.
Je n'irai pas, dit Aramis. Un galant chevalier ne peut manquer à un rendez-vous donné par une dame. Mais un gentilhomme prudent peut s'excuser de ne pas se rendre chez son éminence, surtout lorsqu'il a quelque raison de croire que ce n'est pas pour lui faire des compliments.
« Je suis de l'avis d'Aramis, » dit Porthos.
« Messieurs, » répondit d'Artagnan, « j'ai déjà reçu par M. de Cavois pareille invitation de son éminence. Je l'ai négligée, et le lendemain, il m'est arrivé un grand malheur. Constance a disparu. Quelque chose qui puisse advenir, j'irai.
Si c'est un parti pris, dit Athos, faites.
Mais la Bastille, dit Aramis.
Ben, vous m'en tirerez, reprit d'Artagnan.
Sans doute, reprirent Aramis et Porthos avec un aplomb admirable et comme si c'était la chose la plus simple.
Sans doute, nous vous en tirerons. Mais en attendant, comme nous devons partir après-demain, vous feriez mieux de ne pas risquer cette Bastille.
Faisons mieux, dit Athos. Ne le quittons pas de la soirée. Attendons-le chacun à une porte du palais avec 3 mousquetaires derrière nous. Si nous voyons sortir quelques voitures à portière fermée et à demi suspecte, nous tomberons dessus. Il y a longtemps que nous n'avons eu maille à partir avec les gardes de monsieur le cardinal, et monsieur de Tréville doit nous croire morts.
« Décidément, Athos, dit Aramis, vous étiez fait pour être général d'armée. Que dites-vous du plan, messieurs ?»«
Admirable !» répétèrent en chœur les jeunes gens.
« Eh bien, dit Porthos, je cours à l'hôtel. Je préviens nos camarades de se tenir prêts pour 8h. Le rendez-vous sera sur la place du palais cardinal. Vous, pendant ce temps, faites seller les chevaux par les laquais. »«
Mais moi, je n'ai pas de cheval, dit d'Artagnan. » Mais je vais en faire prendre un chez monsieur de Tréville.
C'est inutile, dit Aramis, vous prendrez un des miens.
Combien en avez-vous donc? Demanda d'Artagnan.
3, répondit en souriant Aramis.
Mon cher, dit Athos, vous êtes certainement le poète le mieux monté de France et de Navarre.
Écoutez, mon cher Aramis, vous ne saurez que faire de 3 chevaux, n'est-ce pas? Je ne comprends pas même que vous ayez acheté 3 chevaux.
« Aussi, je n'en ai acheté que 2, dit Aramis.
Le troisième vous est donc tombé du ciel ?
Non, le troisième m'a été amené ce matin même par un domestique sans livrée qui n'a pas voulu me dire à qui il appartenait et qui m'a affirmé avoir reçu l'ordre de son maître.
Ou de sa maîtresse, interrompit d'Artagnan.
La chose n'y fait rien, dit Aramis en rougissant. Et qui m'a affirmé, dis-je, avoir reçu l'ordre de sa maîtresse de mettre ce cheval dans mon écurie sans me dire de quelle part il venait.
Il n'y a qu'au poète que ces choses-là arrivent, reprit gravement Athos.
Eh bien, en ce cas faisons mieux, dit D'Artagnan. Lequel des deux chevaux monterez-vous, celui que vous avez acheté ou celui qu'on vous a donné?
Celui que l'on m'a donné, sans contredit. Vous comprenez, D'Artagnan, que je ne puis faire cette injure.
Au donateur inconnu, reprit D'Artagnan.
Ou à la donatrice mystérieuse, dit Athos.
Celui que vous avez acheté vous devient donc inutile?
À peu près.
Et vous l'aviez choisi vous-même?
Et avec le plus grand soin. La sûreté du cavalier, vous le savez, dépend presque toujours de son cheval.
Eh bien, cédez-le-moi pour le prix qu'il vous a coûté.
J'allais vous l'offrir, mon cher D'Artagnan, en vous donnant tout le temps qu'il vous sera nécessaire pour me rendre cette bagatelle.
Et combien vous coûte-t-il?
800 livres.
Voici 40 doubles pistoles, mon cher ami, dit D'Artagnan, en tirant la somme de sa poche. Je sais que c'est la monnaie avec laquelle on vous paie vos poèmes.
Vous êtes donc en fonds, dit Aramis.
Riche, richissime, mon cher.
Et D'Artagnan fit sonner dans sa poche le reste de ses pistoles.
Envoyez votre selle à l'hôtel des mousquetaires,
et l'on vous amènera votre cheval ici avec les nôtres.
Très bien, mais il est bientôt 5 heures, hâtons-nous. Un quart d'heure après, Porthos apparut à un bout de la rue Férou,
sur un genet magnifique.
Mousqueton le suivait sur un cheval d'Auvergne, petit,
mais solide.
Porthos resplendissait de joie et d'orgueil. En même temps, Aramis apparut à l'autre bout de la rue, monté sur un superbe coursier anglais. Bazin le suivait sur un cheval rouan, tenant en laisse un vigoureux mecklembourgeois. C'était la monture de D'Artagnan. Les deux mousquetaires se rencontrèrent à la porte. Athos et D'Artagnan les regardaient par la fenêtre.
« Diable, dit Aramis, vous avez là un superbe cheval, mon cher Porthos. »«
Oui, répondit Porthos, c'est celui qu'on devait m'envoyer tout d'abord. Une mauvaise plaisanterie du mari lui a substitué l'autre. Mais le mari a été puni depuis, et j'ai obtenu toute satisfaction. »
Planchet et Grimaud parurent alors à leur tour, tenant en main les montures de leur maître. D'Artagnan et Athos descendirent, se mirent en selle près de leurs compagnons, et tous quatre se mirent en marche. Athos sur le cheval qu'il devait à sa femme, Aramis sur le cheval qu'il devait à sa maîtresse, Porthos sur le cheval qu'il devait à sa procureuse, et D'Artagnan sur le cheval qu'il devait à sa bonne fortune, la meilleure maîtresse qui soit. Les valets suivirent. Comme l'avait pensé Porthos, la cavalcade fit bon effet, et si Madame Coquenard s'était trouvée sur le chemin de Porthos et eût pu voir quel grand air il avait sur son beau genet d'Espagne, elle n'aurait pas regretté la saignée qu'elle avait faite au coffre-fort de son mari. Près du Louvre, les quatre amis rencontrèrent Monsieur de Tréville, qui revenait de Saint-Germain. Il les arrêta pour leur faire compliment sur leur équipage, ce qui, en un instant, amena autour d'eux quelques centaines de badauds. D'Artagnan profita de la circonstance pour parler à Monsieur de Tréville de la lettre au grand cachet rouge et aux armes ducales. Il est bien entendu que de l'autre, il n'en souffla point mot. Monsieur de Tréville approuva la résolution qu'il avait prise, et l'assura que, si le lendemain il n'avait pas reparu, il saurait bien le retrouver, lui, partout où il serait. En ce moment, l'horloge de la Samaritaine sonna 6 heures. Les quatre amis s'excusèrent sur un rendez-vous et prirent congé de Monsieur de Tréville. Un temps de galop les conduisit sur la route de Chaillot. Le jour commençait à baisser, les voitures passaient et repassaient. D'Artagnan, gardé à quelques pas par ses amis, plongeait ses regards jusqu'au fond des carrosses et n'y apercevait aucune figure de connaissance. Enfin, après un quart d'heure d'attente, et comme le crépuscule tombait tout à fait, une voiture apparut, arrivant au grand galop par la route de Sèvres. Un pressentiment dit d'avance à D'Artagnan
que cette voiture renfermait la personne qui lui avait donné rendez-vous. Le jeune homme fut tout étonné lui-même de sentir son cœur battre si violemment. Presque aussitôt, une tête de femme sortit par la portière, deux doigts sur sa bouche, comme pour recommander le silence ou comme pour envoyer un baiser. D'Artagnan poussa un léger cri de joie. Cette femme, ou plutôt cette apparition, car la voiture était passée avec la rapidité d'une vision, était Madame Bonacieux. Par un mouvement involontaire, et malgré la recommandation faite, D'Artagnan lança son cheval au galop et, en quelques bonds, rejoignit la voiture. Mais la glace de la portière était hermétiquement fermée. La vision avait disparu. D'Artagnan se rappela alors cette recommandation. « Si vous tenez à votre vie et à celle des personnes qui vous aiment, demeurez immobile et comme si vous n'aviez rien vu. » Il s'arrêta donc, tremblant non pour lui, mais pour la pauvre femme qui, évidemment, s'était exposée à un grand péril en lui donnant ce rendez-vous. La voiture continua sa route, toujours marchant à fond de train, s'enfonça dans Paris et disparut. D'Artagnan était resté interdit, à la même place et ne sachant que penser. Si c'était Madame Bonacieux, et si elle revenait à Paris, pourquoi ce rendez-vous fugitif? Pourquoi ce simple échange d'un coup d'œil? Pourquoi ce baiser perdu? Si d'un autre côté, ce n'était pas elle, ce qui était encore bien possible, car le peu de jours qui restait rendait une erreur facile. Si ce n'était pas elle, ne serait-ce pas le commencement d'un coup de main monté contre lui avec l'appât de cette femme pour laquelle on connaissait son amour? Les trois compagnons se rapprochèrent de lui. Tous trois avaient parfaitement vu une tête de femme apparaître à la portière, mais aucun d'eux, excepté Athos, ne connaissait Madame Bonacieux. L'avis d'Athos, au reste, fut que c'était bien elle, mais moins préoccupé que D'Artagnan de ce joli visage, il avait cru voir une seconde tête, une tête d'homme, au fond de la voiture. « S'il en est ainsi, dit D'Artagnan, il la transporte sans doute d'une prison dans une autre. Mais que veulent-ils donc faire de cette pauvre créature? Et comment la rejoindrai-je jamais ?»« Ami, dit gravement Athos, rappelez-vous que les morts sont les seuls qu'on ne soit pas exposés à rencontrer sur la terre. Vous en savez quelque chose, ainsi que moi, n'est-ce pas? Or, si votre maîtresse n'est pas morte, si c'est elle que nous venons de voir, vous la retrouverez un jour ou l'autre. Et peut-être, mon Dieu, ajouta-t-il avec cet accent misanthropique qui lui était propre, peut-être plutôt que vous ne voudrez. » 7h30 sonnèrent. La voiture était en retard d'une vingtaine de minutes sur le rendez-vous donné. Les amis de D'Artagnan lui rappelèrent qu'il avait une visite à faire, tout en lui faisant observer qu'il était encore temps de s'en dédire. Mais D'Artagnan était à la fois entêté et curieux. Il avait mis dans sa tête qu'il irait au palais cardinal, et qu'il saurait ce que voulait lui dire son éminence. Rien ne put le faire changer de résolution. On arriva rue Saint-Honoré, et place du palais cardinal, on trouva les 12 mousquetaires convoqués, qui se promenaient en attendant leurs camarades. Là seulement, on leur expliqua ce dont il était question. D'Artagnan était fort connu dans l'honorable corps des mousquetaires du roi, où l'on savait qu'il prendrait un jour sa place. On le regardait donc d'avance comme un camarade. Il résulta de ses antécédents que chacun accepta de grand cœur la mission pour laquelle il était convié. D'ailleurs, il s'agissait, selon toute probabilité, de jouer un mauvais tour à monsieur le cardinal et à ses gens. Et pour de pareilles expéditions, ces dignes gentilshommes étaient toujours prêts. Athos les partagea donc en trois groupes, prit le commandement de l'un, donna le second à Aramis et le troisième à Porthos, puis chaque groupe alla s'embusquer en face d'une sortie. D'Artagnan, de son côté, entra bravement par la porte principale. Quoiqu'il se sentît vigoureusement appuyé, le jeune homme n'était pas sans inquiétude, en montant pas à pas le grand escalier. Sa conduite avec Milady ressemblait en soi peu à une trahison, et il se doutait des relations politiques qui existaient entre cette femme et le cardinal.
De plus, De Wardes, qu'il avait si mal accommodé, était des fidèles de son éminence. Et D'Artagnan savait que si son éminence était terrible à ses ennemis, elle était fort attachée à ses amis. Si De Wardes a raconté toute notre affaire au cardinal, ce qui n'est pas douteux, et s'il m'a reconnu, ce qui est probable, je dois me regarder à peu près comme un homme condamné, disait D'Artagnan en secouant la tête. Mais pourquoi a-t-il attendu jusqu'aujourd'hui? C'est tout simple. Milady aura porté plainte contre moi, avec cette hypocrite douleur qui la rend si intéressante. Et ce dernier crime aura fait déborder le vase. Heureusement, ajouta-t-il, mes bons amis sont en bas, et ils ne me laisseront pas emmener sans me défendre. Cependant, la compagnie des mousquetaires de M. de Tréville ne peut pas faire à elle seule la guerre au cardinal, qui dispose des forces de toute la France, et devant lequel la reine est sans pouvoir et le roi sans volonté. D'Artagnan, mon ami, tu es brave, tu as d'excellentes qualités, mais les femmes te perdront. Il en était à cette triste conclusion lorsqu'il entra dans l'antichambre. Il remit sa lettre à l'huissier de service, qui le fit passer dans la salle d'attente et s'enfonça dans l'intérieur du palais. Dans cette salle d'attente étaient 5 ou 6 gardes de M. le cardinal, qui, reconnaissant D'Artagnan et sachant que c'était lui qui avait blessé Jussac, le regardèrent en souriant d'un singulier sourire. Ce sourire parut à D'Artagnan d'un mauvais augure. Seulement, comme notre Gascon n'était pas facile à intimider, ou que plutôt, grâce à un grand orgueil naturel aux gens de son pays, il ne laissait pas voir facilement ce qui se passait dans son âme, quand ce qui s'y passait ressemblait à de la crainte. Il se campa fièrement devant messieurs les gardes et attendit la main sur la hanche dans une attitude qui ne manquait pas de majesté. L'huissier entra et fit signe à D'Artagnan de le suivre. Il sembla au jeune homme que les gardes, en le regardant s'éloigner, chuchotaient entre eux. Il suivit un corridor, traversa un grand salon, entra dans une bibliothèque et se trouva en face d'un homme assis devant un bureau et qui écrivait. L'huissier l'introduisit et se retira sans dire une parole. D'Artagnan crut d'abord qu'il avait affaire à quelque juge, examinant son dossier. Mais il s'aperçut que l'homme de bureau écrivait, ou plutôt corrigeait des lignes d'inégale longueur, en scandant des mots sur ses doigts. Il vit qu'il était en face d'un poète. Au bout d'un instant, le poète ferma son manuscrit sur la couverture duquel était écrit « Miram, tragédie en 5 actes » et leva la tête. D'Artagnan reconnut le cardinal. Fin du chapitre 39.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.